Bonjour à toutes et à tous. Bon, merci Geneviève déjà de l'invitation. Je suis très contente d'être ici à présenter ce travail. Donc, travail que je n'ai pas fait toute seule. Donc, il y a aussi mes collègues Anne Gagnebien, Cécilia Genot et donc Geneviève, aussi Tom donc, qui a contribué à l'étude. L'étude donc, qui s'appelle Vers une politique numérique et des applications durables des institutions patrimoniales. Donc, c'est une étude qui est la suite, donc, toujours d'une autre étude soutenue par l'UDPN, menée en 2015-2016, sur la modélisation et simulation du patrimoine. C'est à la suite de ce travail, en fait, que nous avons retrouvé, en fait, la question des compétences et donc la question des formations, qui sont strictement liées, quand même, et sur lesquelles on a décidé de travailler cette année. Ce que je vais présenter, c'est une synthèse, donc il y a sûrement beaucoup de questions qui peuvent être posées. Comme elle disait Geneviève aussi, l'échantillon, il est quand même un échantillon réduit. On est sur 26 répondants, pour être plus précis. C'est intéressant de voir, en fait, qu'au début, on est parti sur 21 répondants, et que dans un deuxième temps, on a rajouté, on a ressenti la nécessité de rajouter 5 autres entretiens, vraiment sur le sujet de la formation. Que comme on disait avant, ça avérait un peu plus complexe dans le sens, je trouve, plus varié. Il y a beaucoup de pratiques différentes. Donc, on a ressenti le besoin de rajouter d'autres entretiens pour avoir des résultats un peu plus précis. En ce qui concerne la période, il a été conduit entre janvier et mars 2017. Donc, nous avons rencontré plusieurs types de professionnels. Donc des professionnels des institutions patrimoniales, des conservateurs, des directeurs d'établissement, des responsables donc en tout ce que c'est là, les archives aussi, des professionnels du numérique, donc autant dans le public que dans le privé. Donc là on est allé à la rencontre aussi des entreprises, donc des prestataires qui travaillent avec les institutions, ainsi que des étudiants et des jeunes chercheurs, donc dans plusieurs instituts, universités, à différents degrés aussi, donc des doctorants, en tout cas à la fin de leurs études dans le domaine du patrimoine. Les entretiens ont eu une durée moyenne de 40 minutes. Ils ont été menés, donc, bien évidemment, à Paris et Île-de-France, mais aussi à Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, pour avoir aussi une variété donc, territoriale. Il y a trois thèmes principaux qui ont été abordés dans les entretiens, donc le thème des compétences et des relations avec le numérique dans le secteur patrimonial, le thème des relations entre les prestataires et les professionnels du patrimoine, et enfin le thème des formations. Donc, je rappelle juste l'hypothèse.
Juste avant, excuse-moi Ilaria, donc, il y a eu l'intervention aussi de Tom,
oui,
que tu as évoqué, donc c'était plutôt cet automne. Et donc ça concernait aussi d'autres répondants sur d'autres sites, d'autres villes, à Lille, à Avignon, enfin voilà, hein, et Dijon peut-être aussi, okay, enfin représenté. Le cible c'est où ?
C'est Dijon.
Voilà, c'est pour ça.
Donc on a élargi encore plus.
On est élargi.
Je rappelle juste l'hypothèse, donc... Ouais. Des hypothèses de laquelle on est parti, donc, c'est qu'il y a des formations interdisciplinaires qui tiennent compte d'innovations favorables à l'approche multicompétences pour répondre aux enjeux du numérique dans les secteurs patrimoniales. Donc on part dans cette hypothèse. Le premier gros volet, donc, c'est le volet appelé projet numérique, dans le sens qu'on a essayé de comprendre comment ces différents types de professionnels travaillent sur les projets numériques, comment ils voient un projet numérique, comment ces projets sont intégrés dans les institutions. Donc, ce qu'il apparaît d'une façon générale et assez globale et transversale parmi les différents répondants, c'est l'intensification de la numérisation. Donc, on a le mot omniprésent qui apparaît, donc on parle d'une omniprésence du numérique. Ceci ont créé de ressentis un peu différents. Donc, d'un côté, c'est un objet d'enthousiasme, mais aussi un objet de résistance. Donc il y a un peu la peur qui apparaît encore du gadget, du participatif, d'utiliser tant pour parler du participatif, mais qu'est-ce que c'est vraiment. En tout cas, le numérique occupe une place importante. ça c'est sûr. Il n'y a aucun de répondants qui a mis à côté ce thème, mais on ressent le besoin de parler du numérique et d'intégrer le numérique dans les projets. Je parle d'intégration parce que le numérique, il fait vraiment partie de l'ensemble des projets des établissements maintenant. On considère les projets numériques comme quelque chose d'acquis, qu'on a maintenant intégré dans les pratiques. Quand on parle de projet numérique, c'est très large, c'est très vaste. On parle de dispositifs numériques indoor, outdoor, donc avec des applications mobiles plutôt que des bornes classiques, les tables multitâches. On parle de communication à travers, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux, des blogs, les community management, les sites internet, de médiation, donc sur place, à distance, mais aussi le thème de la conservation du patrimoine avec effectivement la numérisation des données, comment les métadonnées aussi, comment on accède à ces bases de données, la 3D aussi, la modélisation carrément 3D des objets de collection, la mise en réseau plus ou moins ouvert aussi de ces données. Donc, on parle de projets numériques de trois points de vue. Donc, il y a trois types d'applications de ces projets numériques. Un point de vue, c'est les technologies. Il faut en fait souligner que les professionnels, ils sont confrontés à l'utilisation de technologies qui font aussi objet d'une appropriation sociale de la part des visiteurs. Donc, on est face à un public qui a aussi une connaissance de ces outils dans leur propre quotidien. Donc ça, c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'il a arrivé avant. Donc il faut savoir, dans le moment du développement d'un projet numérique, il y a cette conscience aussi que l'outil numérique, c'est quelque chose qui suit les visiteurs. On pense par exemple maintenant au portable, au téléphone portable. Donc il y a une connaissance, un usage pré-gré à l'expérience de visite de cet outil qui va aussi suivre le visiteur après cette visite. Donc l'expérience, elle est plus large, on va dire, que du contexte dans lequel l'établissement imagine le projet numérique lui-même. Donc on parle bien évidemment d'applications qui sont très, très nommées par les interviewés, aussi de réalité virtuelle, avec toutes les questions qui se posent entre l'objet réel, l'objet virtuel, quelle est la place de l'objet, comment on utilise cette réalité virtuelle avec aussi les casques, par exemple, qui pose aussi des soucis physiologiques carrément de la part des visiteurs, et aussi les réseaux sociaux. Comment on utilise les réseaux sociaux, comment on crée du participatif avec les réseaux sociaux, quels réseaux sociaux on utilise, pourquoi, comment. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue de médiation. On arrive à un point où en fait l'outil numérique, l'outil technologique, est considéré ni à sous-estimer ni à surestimer. On est dans une position assez critique envers l'utilisation du numérique, dans le sens où on a un peu passé ce moment de recherche de l'outil numérique pour l'effet waouh, l'effet c'est magique, on a quelque chose absolument, il faut l'avoir, c'est nouveau. On considère qu'il est important, mais qu'il ne va pas non plus résoudre toutes les questions de médiation qu'on a dans nos établissements. Il y a une vraie prise en compte donc, des usages, on se pose des questions, pourquoi on utilise cet outil, quel est notre objectif, donc une recherche de qualité. On voit en fait un abandon de l'expérimentation, par exemple de ce qu'il y avait avant, c'était une intégration de technologies qui n'était pas forcément définitive. On testait aussi dans les établissements et on donnait tout de suite au public. On vient maintenant à la recherche quand même d'une qualité de l'expérience de visite et aussi de l'outil lui-même et on va dire un artisanat du numérique. Donc ça aussi c'est dans la relation qu'on a avec les prestataires où on demande un peu de projets sur mesure, quelque chose de réfléchi avec les établissements. On est dans une relation plus de collaboration, coopération et on verra ça aussi à la suite. D'un point de vue du marketing aussi, eh ben, on retrouve une présence très forte, donc une nécessité vraiment. On considère que les établissements doivent être sur le web, doivent avoir un site internet, doivent être sur les réseaux sociaux. Ça, maintenant, ça semble être la base, c'est ce qu'on attend d'un établissement. Après, comment on utilise les différents réseaux sociaux, on voit qu'il y a des stratégies différentes selon les publics qu'on veut toucher. Aussi, on cherche de nouveaux publics, on crée des relations différentes. On parle en tout cas d'une innovation organisationnelle. Donc, comme on dit en répondant, le numérique, c'est une posture. Ça me semble assez intéressant de souligner ça. On voit que les établissements, les prestataires, ils se cherchent dans une nouvelle manière de travailler, une nouvelle façon d'aborder ces projets. Ces projets sont très différents entre eux parce qu'en fait, ils touchent plusieurs services à l'intérieur des établissements. Il peut y avoir des projets qui touchent les services plutôt des bibliothèques, les services de la conservation, les services de la médiation. Donc cette différenciation crée une manière différente de travailler. On ne peut pas caser le projet numérique comme faisant partie d'un des services de l'établissement. Les établissements aussi sont très différents. Chaque établissement essaie donc de trouver une manière différente de travailler. On a les établissements plus grands, où il y a plus de personnel, qui ont carrément des chefs de projet numérique, tandis que les établissements plus petits semblent un peu faire, au fur et à mesure, on va dire, souvent l'idée, la personne qui a eu l'idée de l'outil numérique, elle va devenir un peu chef de projet de cet outil. Donc, on lui demande d'amener du début à la fin le projet. On trouve donc une certaine difficulté aussi à s'organiser. Hein. On tente, on essaye, il y a plusieurs méthodologies. Ce qui semble un peu relier quand même le fil de tous ces entretiens, c'est qu'on est sur une externalisation des compétences. On ne pense pas devoir internaliser le niveau technique du projet numérique par la diversité des outils nécessaires, parce que c'est un domaine en continue évolution. On pense donc que c'est partie du développement de l'outil lui-même. C'est quelque chose qu'on va externaliser. On va chercher ailleurs ces types de compétences. Par contre, on garde l'internalisation de la gestion du projet. Ça, la gestion du contenu, c'est strictement lié aux établissements. Les prestataires aussi s'en plaignent un peu parce qu'eux, ils voudraient bien aussi pouvoir aller plus loin côté contenu. Mais sur ça, les établissements sont assez frileux en fait de laisser de la place. Donc la gestion du projet, que ce soit la gestion administrative, le planning, le contenu, le pourquoi on utilise un certain outil plutôt qu'un autre, donc sont gardés à l'intérieur de l'établissement. Ce qui concerne le budget, donc c'est quelque chose de difficile à évaluer, comme on disait avant. On passe vraiment de 5 000 à 500 000 euros sur un projet numérique, très compliqué. En fait, les lignes budgétaires liées au projet numérique sont éparpillées à l'intérieur de l'établissement. Donc, ils ne savent pas combien ça coûte en réalité. Ça dépend aussi de plein de facteurs. Est-ce que la recherche iconographique la font eux-mêmes? Est-ce qu'ils l'externalisent, l'écriture des textes? Donc, on peut faire du numérique vraiment à des budgets très variables. L'évaluation, donc j'ai mis évaluation plutôt qu'étude, parce qu'on est plutôt sur des évaluations ponctuelles en phase de prototypage, donc un peu au fur et à mesure de la suite du projet. On ne prend pas encore trop le temps de faire de vraies études. On dit souvent c'est le public qui va être notre répondant, dans le sens est-ce que ça marche bien ou pas, on va le savoir avec les visiteurs, mais d'une façon un peu empirique, donc sans une vraie recherche là-dedans. On fait dans ce cadre-là des partenariats avec les universités, donc on a le rôle des étudiants. C'est un rôle un peu pas forcément tout le temps accepté, en fait il y a des difficultés là-dedans. Il y a des difficultés sur ceux qui sont des évaluations qui durent par exemple plusieurs années. Les sites, ils demandent une continuité quand même dans cette évaluation. Les étudiants échangent. Donc chaque année, on a quoi faire avec des étudiants différents. On n'est pas sûr du niveau de qualité, on va dire, qu'il soit toujours constant. On se plaint des difficultés financières, difficultés de personnel. Voilà, donc là, il y a encore du chemin à faire, on va dire. En ce qui concerne les compétences, comme on a dit, on parle de multicompétences, donc une vraie évolution des métiers liée au numérique. Les gens se retrouvent, en fait, différents professionnels à se confronter avec cette question et on cherche à acquérir des compétences en d'autres secteurs. C'est plutôt un essai, parce que comme on va voir par la suite, on est plutôt sur une interdisciplinarité, effectivement, plutôt qu'une multicompétence acquise par la même personne. Mais ça, je vais revenir par la suite. En interne, on garde ce que c'est l'écriture du cahier de charges, ce que c'est la définition du projet, même si on se fait aider par les prestataires. Donc des fois, on appelle les prestataires même avant la publication du cahier des charges, parce qu'on ne sait pas quel outil utiliser. Donc on donne des petites missions d'accompagnement donc dans une phase initiale. Le prestataire devient un espace de partenaire. On n'est plus dans une relation vraiment hiérarchique, très stricte, entre un commanditaire qui demande quelque chose de précis. On ne sait pas trop, donc il y a des nouvelles formes qui se créent. Il y a du mécénat des compétences, donc avec le prestataire qui s'offre donc un accompagnement de l'établissement. Il y a des consortiums qui se créent, donc mix entre public et privé, institutions et entreprises. Il y a certaine forme, genre on va dire qu'ils sont un peu démunis, les professionnels actuellement en place, surtout à un niveau un petit peu haut dans les établissements face au numérique. On ressent l'attente des nouvelles générations. Donc on s'est dit, nous on n'est pas natifs du numérique, les choses vont changer quand ils vont arriver, les étudiants, ce qu'étudient maintenant, les nouvelles générations, qu'eux ils ont un autre usage du numérique. Donc il y a une attente, une espèce d'espérance dans l'arrivée de nouvelles générations. J'ai noté aussi le monde entrepreneuriat, mais ça c'est de l'autre côté, donc c'est du côté des prestataires. En fait, il y a un changement aussi pour les prestataires. Ils sont de plus en plus menés à travailler en entrepreneur, donc tout seul, en consultant. Et donc eux demandent aussi d'être mieux formés en ce que c'est la gestion d'une entreprise, comment on crée sa propre entreprise. Donc ça on le voit aussi dans les cours de formation. Donc les professionnels du numérique dans les secteurs du privé, ils sont plus, pas forcément encadrés dans des structures complexes, mais se retrouvent un peu tout seuls face aussi à cette demande. Et donc ils ont besoin d'un type de formation plus vaste qu'ils n'ont pas maintenant. J'ai noté aussi les communautés transversales, parce qu'en fait, les professionnels du patrimoine et aussi les prestataires essaient de se rencontrer dans des situations un petit peu plus informelles pour acquérir des compétences d'une manière moins formalisée, qui est vraiment des formations de 3 jours professionnelles, par exemple, à travers des réseaux qui sont Museo Geek, Museo Nome, les réseaux de community manager ou Museo Mix, donc qui organisent des rencontres, des moments d'échange autour du thème du numérique, du patrimoine. Donc c'est des moments qui sont vraiment utilisés aussi pour mieux comprendre le travail de l'autre et essayer d'acquérir des compétences d'une manière plus informelle. En ce qui concerne les formations, donc on voit les prestataires qui deviennent aussi des formateurs, de plus en plus pour former, autant dans les cours aussi universitaires, dans les écoles, pour amener leur expérience pratique de terrain, donc professionnelle, mais aussi se retrouvent à faire des formations spécifiques donc, dans les établissements, donc pour les professionnels déjà en place. Parce qu'en fait, ils voient d'un côté donc, les clients qui écrivent des cahiers des charges qui ne sont pas précis, qui ne sont pas complets, face auxquels le prestataire il a difficulté à répondre. Donc ils se retrouvent dans un rôle carrément, ils commencent à être formateurs, donc ils préfèrent par exemple aussi former à l'outil. Donc il y a des boîtes privées qui vendent des outils, et donc évidemment ils préfèrent aller former à l'utilisation de leur outil le professionnel. En ce qui concerne donc les universités, par exemple le master Muséologie et Nouveaux Médias de la Sorbonne, donc il y a un mélange. Il y a quand même des assises théoriques. On parle d'une bibliographie qui est donnée aux étudiants, une bibliographie donc sur le thème du numérique, une bibliographie sur le thème du patrimoine. Donc on part par une base quand même bibliographique. Mais on essaie de mélanger ça avec du pratique. Donc par exemple des projets tutorés par un professionnel qui va accompagner l'étudiant. Ces projets, ils ne sont pas toujours pratiques. Genre, des fois, ils s'arrêtent à ce que c'est la phase de cahier des charges, par exemple. Ils ne vont pas jusqu'au bout de la production. Mais ils sont des formes pour mettre en contact en fait, l'étudiant avec le professionnel. Les écoles du patrimoine aussi, elles s'ouvrent à la question du numérique. L'école du Louvre, par exemple, organise des visites assez fréquentes en ce qui sont les expositions qu'on considère exemples, des exemples numériques intéressants. L'INP, il crée des modules spécifiques, aussi des formations à distance, même si c'est intéressant de souligner comment la directrice adjointe de l'INP, par exemple, souligne quand même que les étudiants qu'eux vont former seront des étudiants qui ne seront pas, ils ne se retrouveront pas face vraiment au développement des projets numériques parce que c'est un peu des cadres supérieurs, donc ils seront plutôt à la direction des établissements, donc eux, ils ne sont pas au contact avec le projet lui-même. Il y a aussi des formations professionnelles organisées donc par l'OCIM, effectivement, par le CNFPT pour la formation territoriale. Ces formations sont considérées un peu légères dans le sens qu'il s'agit de 2-3 jours de formation spécifique sur un aspect du numérique qui peut être la rédaction d'un site internet ou voilà, là, l'exemple c'est une base de données. Et voilà, mais ce sont des formations courtes, donc sur quelques jours, qui ne semblent pas amener un réel, genre sur la durée, ça ne va pas aider forcément le professionnel. On est sur le besoin, genre on part sur une approche donc méthodologique, pas tellement technique. On est plus sur, on n'essaie pas de former des professionnels dès l'outil technologique, c'est pas ça qu'on demande, mais c'est de former des gens qui sont capables de gérer un projet numérique. Donc avoir une méthodologie, que ce soit une gestion de chef de projet sur un projet numérique qui peut être transversal donc à plusieurs types de projets qui touchent à plusieurs besoins. Pour l'instant, donc, toujours en prenant une phrase dans des noms répondants, l'investissement dans le numérique dépend de la formation des professionnels et de leur culture numérique. Donc on voit un vrai changement dans les établissements selon la culture numérique des gens qui sont impliqués dans les établissements même. Il y en a qui portent le projet numérique, il y en a beaucoup moins. Pour terminer, je vais conclure sur les perspectives. Donc on trouve le thème de l'interdisciplinarité qui est très fort, du partenariat, du collaboratif, qui semble être vraiment quelque chose qui fait partie du projet numérique. On est obligé de travailler d'une manière interdisciplinaire pour mener un projet numérique, parce qu'il y a des compétences très différentes qui vont toucher des professionnels différents. Donc on n'est pas sur les multicompétences d'une personne seule qui doit maîtriser par elle-même, par ses connaissances, l'ensemble de la chaîne, mais plutôt sur ces figures de point clé, c'est la gestion du projet, donc du chef de projet, qui va savoir rassembler les intervenants qui considèrent plus approprié pour mener à bien le projet numérique. On voit donc une innovation organisationnelle qui est un peu obligée dans les établissements patrimoniales pour faire face à l'arrivée du numérique. Aussi d'une innovation ouverte avec les open data, une ouverture donc vers les réseaux externes, avec, vers le public, vers les visiteurs. Il y a aussi des cas de recherche et développement au sein des grandes institutions, par exemple au Louvre, ben, il y a un laboratoire de recherche sur le numérique, donc c'est mélange toujours privé et public. Les partenaires, en fait, qui deviennent donc prestataires de nouveau, ils peuvent trouver donc, dans les sites patrimoniaux des lieux d'innovation, des lieux de test, ou tester lui-même les applications, les nouveaux outils qu'il va imaginer avant de les mettre sur le marché. Donc, il va créer un partenariat avec un établissement qui va lui permettre d'être un lieu de test. On peut dire qu'on est dans une rationalisation du numérique, dans une phase de maturité du projet numérique. Il y a une meilleure connaissance du numérique, mais surtout on se pose beaucoup plus de questions sur l'utilisation de ces outils d'un côté et de l'autre. On est sur des budgets des fois plus petits, on cherche des outils plus performants, plus sûrs, avec une vraie attention donc aux visiteurs et au pourquoi on utilise le projet numérique plutôt qu'un autre outil de médiation plus classique qu'on peut trouver. Voilà.
Merci, Daria.